Leçon 15. Catastrophe naturelle.
1. Pourquoi ces caprices du temps? Record de chaleur, sécheresse, inondation, cataclysme en tout genre. Tel est aujourd'hui le menu de la météo. Ces dernières années, la France n'a pas été épargnée. Après deux hivers particulièrement rigoureux, puis la tempête d'octobre 1987 qui ravagea la Bretagne et une partie de la Normandie, Nîmes était cruellement dévastée, un an plus tard, par des pluies torrentielles.
Au cours de l'été 88, des vagues de chaleur persistantes ont brûlé les récoltes sur pied aux États-Unis, en Inde et en certaines parties de la Chine, tandis que dans d'autres régions de l'Empire du Milieu, des pluies torrentielles noyaient des millions d'hectares. Des précipitations records ont été enregistrées en Grande-Bretagne. Puis, en septembre, le cyclone le plus violent du siècle a balayé les Antilles.
Un phénomène étrange affecte notre climat. Et cela ne date pas seulement de 1988. Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont connu une série d'hivers rigoureux et d'années particulièrement chaudes, comme on en relevait, jusque-là, guère plus d'une fois par millénaire. Ailleurs aussi, les conditions atmosphériques ont atteint des extrêmes. En janvier 1987, de la neige est tombée sur les gondoles de Venise, sur les plages de la Côte d'Azur, sur les terres arides d'Afrique du Sud et même sur le Brésil subtropical.
Le temps est-il en train de devenir fou ? Selon le climatologue britannique Hubert Lamb, de telles conditions atmosphériques, anormales et extrêmes, pourraient être le premier symptôme d'un changement de climat. Allons-nous vers une nouvelle période glaciaire ? Ressentons-nous plutôt les premières conséquences de l'effet de serre, un réchauffement général de l'atmosphère qui pourrait faire fondre les calottes polaires et changer nos campagnes en forêts tropicales ou en désert ?
Les savants avancent plusieurs théories, dont aucune n'apporte de réponse satisfaisante aux caprices du temps. Toutefois, considérées globalement, elles permettent un début d'explication. Par Lowell Ponte. Reader's Digest, Sélection.
2. Les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, sous ce terme général, sont regroupées des désastres très différents, tels que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les cyclones tropicaux, les inondations, les sécheresses, les glissements de terrain, les avalanches. Les catastrophes naturelles sont donc très diverses dans leur nature et dans leur effet. Elles ont, cependant, un certain nombre de caractéristiques communes. Énorme énergie libérée, inéluctabilité de leur déclenchement, impuissance de l'homme, prévisibilité parfois possible, coût en vie humaine et en dégâts matériels d'autant plus élevé que le pays est pauvre.
Toutes les catastrophes naturelles ne sont pas également meurtrières. A priori, celles qui font le plus de victimes sont celles, cyclones tropicaux et inondations, où l'eau joue le rôle principal. De 1947 à 1970, les catastrophes naturelles ont tué plus d'un million de personnes, dont 750 000 sont mortes dans des cyclones tropicaux et 1 173 000 dans des inondations. Parfois, cette règle générale semble infirmée par des séismes exceptionnels. C'est ce qui ressort des statistiques établies par le Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour le secours en cas de catastrophe de Genève, pour les 12 années allant de 1970 à 1981.
Cyclones tropicaux, 93 événements. 353 832 morts, dont 305 159 pour 1970, l'année où la côte du Pakistan oriental, devenue le Bangladesh l'année suivante, a été littéralement submergée par l'un de ces cyclones.
Tremblement de terre, 67 événements. 441 895 morts. Mais cette période est vraiment exceptionnelle. En 1976, un séisme a tué plus de 240 000 personnes dans la région de Taoshan, Chine. Si bien que, du fait des séismes, l'année 1976 a été à elle seule plus meurtrière que les 75 premières années du XXe siècle.
Inondation, 130 événements. 64 103 morts. éruptions volcaniques, sécheresses, épidémies, glissements de terrain, avalanches, 67 événements. Pour toutes ces catastrophes, 272 133 morts, dont 260 000 ont péri en 1973, 1974 et 1975 à cause de la sécheresse qui ravageait alors l'Afrique. Il faut remarquer ici que les éruptions volcaniques, qui sont probablement les catastrophes naturelles les plus spectaculaires, tuent en général peu de personnes. Les 230 000 morts engloutis le 13 novembre 1985 par les avalanches de boue déclenchées par le réveil du volcan colombien Nevado del Ruiz constituent une des très malheureuses et rares exceptions qui rejoint les éruptions de la montagne Pelée, 30 000 morts en 1902 et de quelques autres.
La catastrophe du Nevado del Ruiz est exemplaire à plus d'un titre. Elle était prévisible, étant donné le chapeau de neige et de glace qui couronne le volcan. Les autorités avaient été prévenues du danger qui menaçait les populations vivant dans les vallées situées en aval du Nevado del Ruiz. Mais d'une part, la Colombie, pays en voie de développement, n'avait pas les appareils nécessaires à la surveillance du volcan et, d'autre part, elle ne disposait ni des moyens logistiques et financiers, ni des plans indispensables à l'évacuation et à la prise en charge de dizaines de milliers de personnes. Par comparaison, rappelons le bilan du mont St. Helens, le volcan américain de la chaîne des Cascades, qui a explosé le 18 mai 1980. 65 morts ou disparus, alors que plus de 400 km² ont été ravagés. Dès le réveil du volcan, 2 mois plus tôt, la région avait été évacuée et le volcan mis sous étroite surveillance.
C'est une règle générale, malheureusement. Le sous-développement accroît dans des proportions fabuleuses le nombre des morts. Le séisme de San Fernando près de Los Angeles a affecté le 9 février 1971 une région où vivaient 7 millions de personnes. Il a tué 60 personnes et a fait pour 500 millions de dollars de dégâts, soit 70 dollars par habitant. Le 23 décembre 1972, Managua, la capitale du Nicaragua, était ravagée par un séisme. 5 000 morts environ sur 420 000 habitants, 500 millions de dollars de dégâts, soit 1 200 dollars par personne. Bien évidemment, la même somme a pesé beaucoup plus sur l'économie du Nicaragua que sur celle des États-Unis. De même, en 1969, Camille, un des cyclones tropicaux les plus violents qui ait jamais frappé les États-Unis, a tué 300 personnes, alors que celui de 1970, au Pakistan oriental, en a fait disparaître plus de 200 000.
Quant aux dégâts matériels, il y a certes moins d'installations et de constructions de valeur dans les pays en voie de développement. Mais ils y représentent une part énorme du revenu des nations pauvres. La note du cyclone tropical Fifi, en 1974, était égale à 55% du PNB annuel du Honduras. En cas de séisme, il est bien connu que les plumes meurtrières sont les maisons pauvres des pays pauvres. La seule prévention antiséismique est, en effet, la construction édifiée selon des normes précises.
Les pays développés n'établissent pas toujours des plans d'occupation des sols tenant compte des risques naturels dus aux séismes, aux volcans, aux inondations. Que dire alors des pays en voie de développement ? Yvonne Rebérol, Le Monde, Dossiers et Documents, mai 1986.
Vocabulaire.
Le caprice.
Une inondation.
Une sécheresse.
Épargner.
Rigoureux, rigoureuse.
Ravagé.
Dévasté.
Torrentiel.
Persistant, persistante.
Sur pied.
L'Empire.
Noyé.
Les précipitations.
Les Antilles.
Affecté.
Une décennie.
Relevé.
Un millénaire.
Atmosphérique.
Un extrême.
Une gondole.
Aride.
L'Afrique du Sud.
Le Brésil.
Subtropical, subtropicaux.
Un climatologue.
Britannique.
Anormal, anormaux.
Glaciaire.
Une serre.
Une épidémie.
Périr.
Englouti.
Une avalanche debout.
Colombien, colombienne.
Exemplaire.
À plus d'un titre.
Prévisible.
Étant donné.
Couronné.
Les autorités.
La Colombie.
Pays en voie de développement.
D'une part et d'autre part.
Disposer de.
Logistique.
Indispensable à.
Une évacuation.
La prise en charge.
Prendre quelqu'un en charge.
Étroit, étroite.
Le sous-développement.
Dans des proportions fabuleuses.
Fabuleux, fabuleuse.
Managua.
Le Nicaragua.
Peser sur.
Le revenu.
PNB, produit national brut.
Le Honduras.
Une prévention.
Antisismique.
Édifier.
La norme.
Établir.
L'effet le serre.
Un réchauffement.
Une calotte.
Polaire.
Avancer une théorie.
Globalement.
Un terme.
Regrouper.
Une éruption.
Volcanique.
Un glissement.
Une avalanche.
Une inéluctabilité.
Un déclenchement.
Une impuissance.
Une prévisibilité.
Le coup.
Le dégât.
D'autant plus que.
Meurtrier, meurtrière.
A priori.
Affirmé.
Un séisme.
Ressortir de.
Le coordonnateur.
Le bureau du coordonnateur des Nations Unies.
Allant de à.
Submergé.
Si bien que.
Du fait de.
Chose promise, chose due.
Aide-toi, le ciel t'aidera.
Lecture. Nîmes englouti. Les pluies qui sont tombées sur Nîmes le 3 octobre 1988 constituent un phénomène exceptionnel à plusieurs titres.
D'abord, par la quantité d'eau. Nîmes a reçu en 24 heures 263 litres d'eau par mètre carré, dont 228 de 7 heures à 13 heures. Ensuite, par la localisation extrêmement limitée, 263 mm de pluie sont tombés à Nîmes-Courbesac, la station de radiosondage de la météorologie nationale, située à 5 km à l'est du centre de la ville. Pendant le même temps, il n'est tombé que 33 mm à Nîmes-Garon, l'aéroport militaire situé à 10 km au sud-est du centre de la ville. Et il n'est presque rien tombé sur le mont Aigoual, ni sur Sète, respectivement, à 70 km au nord-ouest et au sud-ouest de Nîmes.
Un phénomène exceptionnel. Enfin, par l'immobilité de la zone d'orage. Favorisée par des vents quasi nuls, elle est restée stationnaire pendant plusieurs heures avant de se déplacer lentement vers le nord-est en perdant de sa virulence.
Quant aux causes de la catastrophe, tout ce que la météorologie nationale pouvait dire, peu après le déluge meurtrier, c'est que de l'air chaud et humide arrivait de la Méditerranée sur le Languedoc et les Cévennes, tandis que de l'air froid, venant d'Aquitaine, se dirigeait vers le golfe du Lion. Jusque-là, il s'agissait d'une situation classique. Comme a été classifiée la formation des cumulonimbus au-dessus de l'air maritime.
Le relief semble avoir joué un rôle important. Nîmes est situé à 59 mètres d'altitude dans une plaine. Au nord et près de la ville, l'horizon est barré par une ligne de collines montant jusqu'à 250 mètres et annonçant les Cévennes. Un relief aussi faible n'a que très rarement une influence sur le comportement d'une telle ligne d'orage. Celle-ci n'avait d'ailleurs que 35 km de long et 10 km de large.
Toutes ces particularités se sont très probablement combinées pour provoquer ce déluge, d'autant plus imprévisible qu'il était d'une abondance exceptionnelle et d'une très faible étendue. Yvonne Rebérol, Le Monde, 5 octobre 1988.
Vocabulaire.
La localisation.
Le radiosondage.
La météorologie nationale.
Une immobilité.
La zone d'orage.
Favorisé.
Quasi.
Nul.
Stationnaire.
La virulence.
Le déluge.
Le golfe.
La formation.
Le cumulonimbus.
Maritime.
Barré.
Annoncé.
Une particularité.
Se combiner.
Imprévisible.
Une étendue.